Alors, nous avons encore un peu de travail ce soir avant notre repos bien mérité. Et donc, j'ai la joie de vous présenter Édouard Robrecht. C'est aussi une première pour nous que d'avoir un intervenant qui va nous donner le point de vue du judaïsme. Édouard Robrecht est maître de conférence à l'université d'Aix-Marseille en philosophie juive. C'est l'unique maître de conférence en France en philosophie juive.
Spécifique.
Voilà. Il a travaillé sur Paul Ricoeur pour son doctorat. Il étudie les relations entre l'éthique, la religion et la politique, et puis aussi l'herméneutique rabbinique, entre autres. Il a une prédilection pour Franz Rosenzweig et Emmanuel Levinas. Et puis, il a publié un livre sur les chassidim, oui, entre autres, en 1990. Et puis, d'autres encore, peut-être?
Non. En préparation, mais pas...
En préparation, voilà.
Tout à fait.
Voilà, et donc, je lui laisse maintenant la parole.
Merci. Doublement merci d'abord pour votre invitation. Et alors le deuxième merci est un peu entre guillemets, parce que merci de m'avoir posé un défi tout à fait incroyable en 45 minutes d'essayer de vous résumer, de vous présenter le judaïsme et de vous résumer la conception juive de ce qui n'est pas du tout juif au départ, la loi naturelle. Donc, je vais essayer de relever ce défi. En essayant assez rapide, d'être assez rapide dans ces 45 minutes. Et donc, ne me tenez pas rancune, il est clair que je vais faire des choix et que je ne vais donc pas représenter le judaïsme, mais ce que je pense être, bien sûr, une partie importante du judaïsme. Le judaïsme est une société plurielle, il l'a toujours été, même si pendant certaines périodes ce fut moins le cas. Et donc, je ne suis pas un représentant officiel du judaïsme avec un grand J. Ceci dit, comme je suis universitaire, j'essaie quand même d'être le plus objectif possible. Bien. Alors, tel que je l'ai présenté, donc le sujet, c'est la loi naturelle ou l'extériorité intérieure de l'appel éthique. Je l'ai dit, la loi naturelle, c'est pas du tout, ça ne semble pas du tout une histoire juive au départ. Les seuls lieux où on pourrait trouver des accroches à ce thème, c'est, on en a parlé tout à l'heure, surtout la littérature sapientielle, la littérature de sagesse. C'est par exemple un philosophe, un des premiers et rares philosophes d'ailleurs juifs, contemporain de Jésus, qui s'appelle Philon. Mais il faudra attendre très très longtemps en fait pour que cela rentre véritablement dans une réflexion juive, avec d'abord Saadia Gaon au Xe siècle, et puis surtout Maïmonide au XIIe siècle, donc par l'apport de la philosophie, en fait. Et puis ça va rebondir dans l'histoire, je ne vais pas vous citer tout le monde, il y a Abraham Hanel qui va en parler aussi, il va surtout y avoir Moïse Mendelssohn, au XVIIIe siècle, le grand-père de Félix, et bien sûr, un peu plus tard, Hermann Cohen, à la fin du XIXe siècle, et de manière plus récente, Léo Strauss, bien sûr, qui a écrit un livre sur le droit naturel, et qui est tout à fait intéressant et important. Voilà, donc ça vient très tardivement, ça semble extérieur. Ça, c'est la première impression. Quand on creuse un peu, et je veux dire que j'ai été fortement aidé par tout ce qui a été dit, et surtout ce matin aussi par une remarque du cardinal Ratzinger. La loi naturelle, nous a-t-on dit ce matin, c'est peut-être une traduction de la loi de la création. C'est-à-dire que la nature serait une manière pour quelqu'un qui pense à la création, un chrétien qui pense à la création, de traduire cela dans un langage audible par tout le monde avec ce terme de nature. Bien. Et donc je comprends bien, loi de la création, c'est déjà plus parlant pour un juif. On a été plus loin dans ce même exposé ce matin en disant, mais la loi de la nature, c'est finalement aussi, au commencement était non le verbe, c'est-à-dire la raison. Donc je peux déjà comprendre la raison de la création, ou la raison dans la création, si on veut. C'est à peu près là qu'on en est arrivé jusqu'ici, et je voudrais aller encore plus loin. Parce que au commencement était le verbe c'est bien sûr la raison dans une certaine interprétation, mais c'est au-delà du de la raison, bien sûr, la parole. Et lorsqu'on arrive dans la parole, on saute de domaine, on n'est plus dans le domaine de la création, mais dans celui de la révélation. Et donc j'en arrive à traduire la loi de la nature par la révélation de la création. Vous voyez que j'ai fait tout un cheminement, grâce à vous, pour en arriver à la révélation de la création. Là, ça devient intéressant, et je retombe sur mon sujet, la loi naturelle ou l'extériorité intérieure de l'appel éthique. Et l'extériorité intérieure reprend, d'une manière que je vais expliquer, ça va être le sujet de mon exposé, cette révélation de la création. Avec une petite remarque qui a son importance, c'est que j'ai bien parlé d'extériorité intérieure. Le substantif, c'est bien l'extériorité, l'adjectif intérieur. Autrement dit, sans l'extériorité, l'intériorité ne serait pas possible. Je le traduis dans les termes que j'ai annoncés. Sans la révélation, on ne peut pas parler de création. Et pour exemplifier cela, je vais introduire un thème qu'on vient de finir de vivre aujourd'hui. C'est pour ça que je n'ai pas pris le micro tout à l'heure, c'était Shabbat. Et le Shabbat est tout à fait fondamental dans le judaïsme pour plusieurs raisons. Une raison principale, c'est que si vous comprenez le Shabbat, vous comprenez le principe sur lequel le judaïsme s'est construit au niveau herméneutique, qu'on appelle le Midrash. Pourquoi faut-il interpréter les textes divins? Ce n'est pas seulement un jeu, c'est profondément ancré dans la notion de Shabbat aussi. Et j'aimerais donc, avec le Midrash, travailler, vous essayer de vous faire entendre des textes bibliques pour vous montrer l'importance de cette notion de Shabbat qui est à la liaison précisément entre la création et la révélation. Et c'est cette liaison dont je voudrais vous parler à travers le Shabbat. Bien, maintenant j'ai fait mon introduction, je rentre dans le cœur du sujet. Je vais commencer par lire un texte. Mais le texte qu'on lit en général en incluant le Shabbat, et qui est la fin du chapitre 1 de la Genèse, et le début du chapitre 2, où on parle bien sûr du Shabbat. Alors écoutez bien ce texte, parce que la méthodologie du Midrash, elle est toute simple. Vous lisez un texte et vous cherchez ce qui dans le texte cloche. J'aime bien le mot parce que c'est exactement ça, ce qui dans le texte résonne, c'est-à-dire vous pose question. Mal lire un texte, c'est lire un texte lisse, où il n'y a pas de question. Apprendre à lire un texte avec le Midrash, c'est se rendre compte que le Midrash n'est pas arbitraire, mais qu'il répond à une question dans le texte, et si vous n'avez pas vu ou entendu cette question dans le texte, vous ne comprenez rien du Midrash. D'accord ? Alors on va lire le texte. Exercice pratique. Dieu vit tout ce qu'elle avait fait, et voici, c'était très bon. On a parlé du bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, le sixième jour, on est à la fin du premier chapitre. On commence le deuxième. Les cieux, la terre et toutes leurs structures furent terminées. Dieu termina le septième jour l'œuvre qu'il avait faite. Il chôma, c'est-à-dire il fit Shabbat, le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, car en lui, il avait chômé de toute l'œuvre que Dieu avait créée pour faire. Je traduis littéralement. Vous avez tout de suite compris, c'est la fin du texte, qu'il y a déjà un clin d'œil énorme dans le texte, pour faire quoi? Bien. Ce sera le deuxième clin d'œil. Il y en a un premier, en fait, et qui m'intéresse ici, qui est une contradiction. Si vous lisez d'ailleurs la traduction de la Septante a bien relevé cette contradiction parce qu'elle a mal traduit le texte. Pour essayer de répondre à la contradiction. Je vous ai lu, Dieu termina le septième jour l'œuvre qu'il avait faite, il chôma le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Comment a traduit la Septante? Dieu termina le sixième jour l'œuvre qu'il avait faite, il chôma le septième jour de l'œuvre qu'il avait faite. Ça, c'est cohérent. Merci à la Septante pour avoir débusqué le lapin du texte, c'est-à-dire cette contradiction. Comment peut-il terminer le septième jour quand il chôme le septième jour? Premier problème du texte. Deuxième problème, je vous l'ai dit, pour faire quoi? Troisième problème, c'est la fin du récit de la création. On a été habitué au rythme de la création. Chaque fois qu'un jour se terminait, il y eut un soir, il y eut un matin, jour 1. Il y eut un soir, il y eut un matin, jour deuxième jour, il vient soir, etc. On arrive au sixième jour, il vient soir, il vient matin, le sixième jour. Ah, le sixième jour, c'est déjà troisième. Pourquoi le sixième jour? C'est jour 1, deuxième jour, troisième jour, puis le sixième jour. Pourquoi le sixième jour? Étrange. Il va y avoir un midrash, on va y arriver. Mais, dernière question, quand on arrive à la fin de Shabbat, on aurait dû avoir, il y a eu un soir, il y a eu un matin, le septième jour, ou septième jour, ou jour du Shabbat. Ce n'est pas écrit. Voilà. J'ai levé avec vous les quatre grandes questions, il y en a plus, hein, vous en faites pas, que pose ce texte. Mais c'est celles qui vont me préoccuper, c'est à partir d'elles que je vais construire la réponse du Midrash et du Midrash que je vous propose aujourd'hui. Donc première question, comment Dieu peut-il terminer le septième jour en même temps ne rien faire le septième jour? D'habitude, d'ailleurs, c'est presque un gros mot par rapport à Dieu. Quand nous faisons Shabbat aujourd'hui, on termine le sixième jour, on allume les bougies de Shabbat et on rentre dans le sixième jour, on chôme le septième jour. Mais on ne termine pas le sixième jour. Si je terminais le septième jour, ça veut dire que je fais encore quelque chose quand Shabbat est rentré, donc je transgresse le Shabbat. Et puis je chôme après, mais c'est impossible. Donc comment Dieu se permettrait-il de faire ce que nous ne pouvons pas faire? Parce que c'est Dieu. Surtout, il faut comprendre. Il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Comment peut-il terminer en chômant? Interprétation du Midrash. Il y en a plusieurs possibles. Hein. De nouveau, comprenez la méthode du Midrash. Vous avez la question, vous avez les réponses. Bien sûr. Je vous donne ici la réponse que je choisis, parce qu'elle me semble plus intéressante dans le contexte auquel je réponds. Réponse donc du Midrash par rapport à cela, il a terminé le septième jour, et il a chômé le septième jour, ça veut dire qu'il avait encore des choses à faire, mais il ne les a pas faites. Tout simplement. Un peu exactement, alors je vous ai dit comment on rentre dans Shabbat, mais en fait, ce que je vous ai raconté, on termine le septième jour et puis on fait Shabbat, c'est vrai en théorie. En pratique, c'est jamais comme ça que ça arrive. Vous arrivez le sixième jour, vous avez encore plein de choses à faire, puis c'est Shabbat, c'est trop tard. Vous vous arrêtez. Et vous n'avez jamais fini, comme vous voudriez, dans la paix, la sérénité, etc. Vous avez toujours quelque chose à faire. Mais c'est exactement la même chose avec Dieu. Alors qu'est-ce que ça signifie, ça? Et ça, c'est intéressant. Je ne vous donne pas la réponse. Ça veut dire que, et c'est ça qui est important ici à comprendre, le monde que Dieu a créé, parce qu'il a fait Shabbat, n'est pas parfait. Il s'est arrêté trop tôt. Enfin, il s'est arrêté... Et vous voyez que ça pose question, ça. Et pourquoi il s'est arrêté? Il aurait pu terminer le sixième jour quand même et puis faire rentrer Shabbat comme il faut. C'est Dieu. C'est lui qui décide quand rentre le septième jour. Donc il faut creuser pour essayer de comprendre cela. C'est déjà important parce que ça signifie que la création n'est pas le lieu de finition de l'infini de la volonté divine. C'est très important pour les médecins, ça. Mais parce que si Dieu avait fini toute sa volonté infinie dans la création, ben, il ne faudrait pas toucher. Tu es malade, c'est Dieu qui le veut, béni soit Dieu. Il n'est pas question d'aller voir le médecin. Je pourrais donner d'autres exemples, hein, au niveau de la technique, au niveau de l'intervention de l'homme dans le monde. Si le monde est parfait, ben, ne touche pas. Il y a des écologistes radicaux qui pensent ça. Ils voudraient éliminer l'homme pour que le monde revienne à son état parfait. L'homme est un empêcheur de tourner en rond. Bon. Donc première interprétation ici, qui est celle de dire que la création n'est pas le tout de la volonté divine. Et donc, je le dirais de cette manière-là aussi, la sagesse de la création, ou les lois de la création, ne sont pas le tout de la sagesse divine ou des lois du divin. On arrive à la fin du texte. Deuxième pierre d'achoppement, il a cessé, je vous relis le texte, car en lui, le septième jour, il avait chômé de toute l'œuvre que Dieu avait créée pour faire. Il a chômé pour faire. Mais s'il lui chôme, c'est pour faire, qui va faire? Première réponse, pas Dieu. Deuxième réponse, mais c'est là qu'intervient celui qui a été créé juste avant la rentrée du septième jour, l'homme. Parce que les rabbins nous apprennent, et ça c'est très important aussi, que Dieu a créé l'homme pas le vendredi soir, pas le vendredi une heure avant Shabbat, etc. Non, il nous apprennent, il y a un midrash qui nous apprend que Dieu a créé l'homme juste avant Shabbat. Si le Shabbat est rentré hier à 18h30, eh bien disons que Dieu a créé l'homme à 18h29. D'accord ? Pas à 17h, pas à 15h, etc. Non, il a créé l'homme à 17h29. Puis l'homme était là, il a fait Shabbat. Et je commence à avoir la réponse que j'avais posée. Pourquoi Dieu a-t-il fait Shabbat avant d'avoir terminé ? Parce que l'homme faisait partie du projet. Et que lorsque l'homme était présent, Dieu a voulu se retirer, faire Shabbat, pour lui laisser la place. Les chrétiens connaissent bien, on appelle ça l'amour. N'est-ce pas ? Quand quelqu'un arrive, vous lui laissez la place. Vous vous retirez pour qu'il puisse avoir sa place. Le Shabbat m'enseigne donc que là où l'homme est, Dieu se retire pour lui laisser la place. Et il faut qu'il se retire pour lui laisser la place. Le retrait de Dieu, donc, devient une des conditions de possibilité de l'advenue de l'humain dans le monde. C'est ça qu'on essaie de nous enseigner ici. Dès que l'homme est là, Dieu se retire. C'est pas qu'il peut encore attendre. Dès que l'homme émerge, il faut que Dieu soit parti. Je vais vous expliquer ça de manière beaucoup plus simple, hein, mais c'est exactement ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que l'homme peut advenir à lui-même et à sa propre responsabilité et à sa propre liberté parce que Dieu n'est pas là. Parce que s'il était là, l'homme ne serait pas libre. En termes philosophiques, si vous voulez, si je baignais dans l'absolu, ma finitude n'aurait pas de place. Je ne serais qu'un élément de l'absolu. Il faut que l'absolu se retire pour que je puisse exister. Et donc vous entendez bien que le Shabbat est fondamental. C'est la condition pour que l'homme puisse vivre. Et j'en arrive à la troisième partie. Vous voyez que je vais vite. Il faut vous accrocher. Pourquoi on ne nous dit pas « il y a eu un soir, il y a eu un matin, septième jour » ? Réponse d'un de mes maîtres, c'était Léon Ashkenazi, qui était de dire il y a eu un soir, il y a eu un matin, un septième jour, parce que nous sommes toujours dans le septième jour de Dieu. Autrement dit, l'histoire humaine, c'est le Shabbat de Dieu. L'histoire humaine est le Shabbat de Dieu, elle doit bien sûr aboutir à la fin du Shabbat, au huitième jour. Mais nous ne sommes pas encore. Le huitième jour, si vous voulez, c'est les temps messianiques que nous attendons toujours avec les chrétiens, mais pas de la même manière. Puisque les chrétiens attendent le retour du Messie. Et je répète toujours aussi au fait qui est quand même intéressant, le dimanche, c'est effectivement le huitième jour, mais c'est en même temps le premier jour de la semaine. Et la semaine est restée une semaine de sept jours. Donc aussi, au niveau chrétien, on n'est pas encore passé réellement à une semaine de huit jours, c'est-à-dire au huitième jour messianique. Voilà, donc en tout cas, le Shabbat signifie précisément le fait que lorsque l'homme apparaît, Dieu met fin au processus des six jours de la création, précisément, pour laisser place à l'homme et à son agir. Donc l'homme est là pour faire là où Dieu ne fait plus rien. Mais maintenant, pour faire quoi ? Des centrales nucléaires ? Des ordinateurs ? Que doit viser le faire de l'homme ? Simplement faire, parce que Dieu ne fait plus ? Oui, évidemment, c'est très important. Mais quel est le sens de cette action ? Quel est le sens de l'action humaine ? Toujours selon les rabbins, on peut revenir et relire maintenant les versets qui précèdent. Juste avant le Shabbat, je vous l'ai dit, Dieu crée l'homme. Il ne le crée pas n'importe comment, bien sûr. Reprenons le texte, chapitre 1, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, alors, faisons l'homme dans notre silhouette, dans notre ombre. C'est plus précis comme traduction. Faisons l'homme dans notre silhouette, dans notre ombre. Si vous êtes lévinassien, vous direz, faisons l'homme dans notre trace. Comme notre ressemblance. La Septante a traduit différemment. Le texte hébreu est plus précis. donc dans notre ombre, dans notre retrait, comme notre ressemblance. Vous voyez qu'il y a déjà dans la notion d'image qui fait pencher beaucoup plus la balance vers une présence dans l'homme de quelque chose de précis, dans l'ombre ou dans le retrait, dans la trace, c'est plus délicat comme relation. C'est une relation très forte, bien sûr, mais moins obnubilée, si vous voulez, par la présence du divin en l'homme. Voilà. Il y a quand même comme la ressemblance. C'est pas la ressemblance, mais c'est comme la ressemblance. Bien. Faisons l'homme, nous dit un Midrash, pourquoi ce pluriel ? Alors là, les rabbins ont été très embêtés. Pourquoi ? Parce que quand les chrétiens sont arrivés, faisons l'homme, un pluriel, il n'y a pas de problème, c'est la Trinité, et on résout tout. Et donc l'homme est à l'image de la Trinité, c'est super. Et les rabbins ne pouvaient pas être d'accord, à moins de renoncer à leur rabbinisme. Et donc ils ont cherché d'autres solutions, il y en a toute une série, il y en a une que je trouve superbe. Je vous la cite, c'est dans le Midrash Rabbah. Alors je ne vous donne pas littéralement c'est la chose suivante, Dieu, à qui a parlé Dieu ? Faisons avec qui ? Avec qui Dieu a-t-il parlé pour dire faisons l'homme ? Vous avez toutes sortes de réponses avec le ciel, la terre, avec les anges, etc. Celle que je choisis, c'est celle où Dieu a parlé aux justes pour leur dire faisons l'homme. Je passe ça, ça prendrait trop de temps pour travailler le texte. En fait, comprenez ceci. Dieu a parlé à l'homme pour dire à l'homme, faisons l'homme. Ce qui change complètement le sens du verset, évidemment. Et puis surtout, ça pose une question très, très intéressante. L'homme n'est créé que le verset d'après. Hein ? C'est-à-dire au verset 27, vous connaissez le verset, Dieu créa l'homme selon son nombre, pas dans sa ressemblance, hein, selon son nombre, à l'ombre de Dieu il le créa, masculin et féminin il les créa. S'il n'est pas créé, comment Dieu peut-il s'adresser à l'homme ? Élémentaire, mon cher. La réponse est très intéressante. Ça veut dire que l'homme naît au cœur de l'appel divin qui le précède. Et que cet appel divin déjà se retire, comme le Shabbat. Vous voyez qu'on est déjà dans un passage où ce n'est plus Dieu qui, comme pendant les six jours, décide pour l'autre ce qu'il sera. Il y a déjà ici un passage où Dieu se retire puisqu'il demande à l'homme lui-même de faire l'homme avec lui. C'est très intéressant parce que ça change, ce Midrash change complètement le sens du verset. C'est pas à l'image de Dieu qu'il est créé. Faisons l'homme dans notre ombre, mais l'ombre de qui ? De l'homme et de Dieu. Ou dans l'image, si vous voulez, de l'homme et de Dieu. Donc ce n'est pas une image que Dieu a en tête à laquelle l'homme devrait se soumettre pour être parfait. C'est l'image de la relation entre l'homme et Dieu qui portera l'homme. Faisons l'homme à l'image de nous, dit Dieu à l'homme. Hein ? Comme je dirais à mon épouse, faisons un enfant à notre image. Vous avez compris ? Si ça se passe bien dans le couple, ça va aller bien avec l'enfant. Si ça se passe très mal, et donc c'est la relation maintenant qui devient l'image en fonction duquel l'homme va surgir. Plus important que cela, bien sûr, ça signifie que l'homme ne se fait pas sans lui-même. C'est là qu'il sort déjà de la création au sens strict. Alors qu'auparavant, je l'ai dit, Dieu faisait tout pour les autres. Désormais, l'homme est invité à devenir par lui-même à l'appel divin. Et donc l'homme ne peut se faire qu'en réponse à un appel qui le précède, mais c'est à l'homme de se faire. Bien sûr, vous comprenez qu'il ne s'agit pas, je ne parle pas ici du self-made man. Hein. Ça peut dégénérer en cela, dans le verset plus précis. Il s'agit pour l'homme de se faire dans réponse à. Donc je suis précédé par un appel dans lequel j'émerge à moi-même. Faisons l'homme, dit Dieu à l'homme, cela signifie deux choses. Passionnant et terrifiant. C'est passionnant parce que ça veut dire que l'histoire ne se fera pas sans moi, que je ne suis pas seulement ce que je suis à ma naissance ou ce que je suis lorsque Dieu me crée. La création pour l'homme n'est qu'un départ vers une aventure qu'il n'a pas encore vécue à l'avance. C'est à moi-même de pouvoir me faire émerger à moi-même. Je ne suis pas fait comme un rat. Je reste à faire en avant de moi. Je suis appelé par un projet qui me précède vers moi-même en avant de moi. Donc c'est passionnant, parce que ça signifie précisément qu'on ne m'impose pas de l'extérieur. Vous comprenez, ça veut dire que, mais c'est ce que je suis en train de vous raconter ici, ça veut dire que chaque personne est unique dans l'émergence qui lui est propre. C'est ça la personne, on en a parlé beaucoup. La personne dans son irréductibilité propre. Donc j'ai cette possibilité inimaginable d'émerger moi-même à moi-même grâce à cet appel qui me précède. Vous voyez que c'est un appel universel, soit dit entre nous. Hein. Faisons l'homme. Peut-être que les juifs et les chrétiens doivent précisément témoigner devant l'humanité du fait que, et ça c'est très difficile, l'humain n'est pas encore là s'il ne se construit pas dans un appel qui le précède. C'est très difficile parce que ça veut dire que je dis aux gens qui ne sont pas encore humains. Narcissiquement, c'est très difficile à entendre. Ça casse mon narcissisme. C'est-à-dire que je dois encore émerger à quelque chose, je dois sans cesse émerger à un travail qui n'est pas encore accompli. Mais c'est passionnant. C'est terrifiant, parce que tout simplement, je peux me défaire. Je peux me rater, comme on dit. Je le dirais de cette manière-là, mais on le dit dans la tradition juive. On ne peut pas être sûr d'être juste avant son dernier souffle. Donc on n'est jamais sûr d'être juste. Et je traduis ça d'une autre manière, si vous voulez. On ne peut jamais être humain, être sûr d'être humain, avant son dernier souffle. Je peux avoir une image très positive de moi-même, ce qu'on a en général si on veut vivre. Hein, mais ça ne suffit pas, parce que je ne suis pas sûr d'être à la hauteur de l'appel qui me traverse. Et donc je peux me rater. Le sens de l'humain est toujours en recherche de l'humain. Donc, nous sommes dans une aventure passionnante, mais qui peut être parfois terrifiante, parce que quand on se rate, et c'est pas seulement personnellement qu'on se rate, on peut se rater, ce sont des civilisations qui peuvent se rater, c'est-à-dire aussi se détruire. Je cite toujours cet exemple terrifiant, parce que c'est vrai, c'est là qu'on sent qu'il y a une responsabilité humaine réelle dans l'histoire. L'île de Pâques, hein, c'est une civilisation qui s'est autodétruite. C'est déjà arrivé dans l'histoire. Ça veut dire, c'est pas. Voilà, donc c'est possible. Et vous comprenez ici l'importance de cette relation, et de ce que je vais appeler aussi la relation d'alliance, dans ce faisons l'homme, qui est une invitation, un appel, et aussi une exigence par rapport à l'homme. Bien, vous comprenez, donc ici, on est vraiment dans ce passage de la création où tout était fait par Dieu au Shabbat, où on voit qu'avec l'advenir de l'homme, Dieu déjà se retire en invitant l'homme à participer à sa propre advenue, et une fois que l'homme est créé, il se retire tout à fait. Ceci dit, le Midrash va nous faire rebondir encore une fois. Dans un passage que j'ai déjà cité, le sixième jour. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Le sixième jour, c'est unique par rapport au jour qui précède. Pourquoi ce le sixième jour? Comme si, dit le Midrash, on savait de quel jour il s'agissait. Effectivement, les rabbins ont été cherchés, ils ont trouvé un sixième jour qui est fondamental pour le judaïsme et pour l'humanité, d'après les rabbins. Il y a un sixième jour qu'on connaît très bien, c'est le sixième jour du mois de Sivan, hein, c'est-à-dire celui qu'on connaît comme la fête de Shavuot, en français ou en grec, hein, le jour de la Pentecôte. C'est-à-dire, pour le judaïsme, le jour du don de la Torah au Sinaï. La révélation du Sinaï. Et vous voyez tout de suite que par cet habile détour, le Midrash me fait entendre que ce qui s'est passé à la fin du sixième jour, juste avant Shabbat, c'est la révélation du Sinaï. Comme s'il avait fallu qu'une fois l'homme créé, Dieu rappelle à l'homme cet appel qui le précédait, mais qui pouvait s'oublier parce que l'homme n'était pas encore là au moment où on l'a appelé. Et donc le sixième jour, mais précisément, ça fait référence au fait qu'il faut que Dieu rappelle à l'homme ce qu'il précède, parce qu'il peut l'oublier. Et donc on saute avec les rabbins dans le récit, au chapitre 19 et 20 de l'Exode, de la révélation du Sinaï. Avant que Dieu ne se retire, il fallait qu'il donne sa parole, je vais dire ça comme ça, pour que l'homme puisse connaître, ou entendre en tout cas, avoir connaissance, on dira de cette manière-là, l'appel divin, son projet. Hein, vous savez que la traduction habituelle du mot Torah, c'est instruction, on en a parlé tout à l'heure, ou enseignement. Une traduction plus juste, à mon avis, est celle de projet. Hein, parce que Torah vient de la racine yoré, hein, yoré qui signifie en fait jeter en avant. Jeter en avant, c'est-à-dire projeter. La Torah, si vous voulez, c'est tout simplement le projet divin de Dieu pour l'homme. C'est une remarque importante. Je ne sais pas pourquoi la Septante a traduit Torah par nomos, en grec, c'est-à-dire par loi, mais c'est une traduction lourde de conséquences dans l'histoire. C'est clair. Or, c'est une traduction qui est, pas biaisée, mais qui est un choix herméneutique par rapport au mot Torah. Et donc, je préfère revenir à la racine hébraïque et parler d'un projet. Mais le Sinaï, précisément, pour la tradition juive, c'est le projet de Dieu par rapport à l'humanité. Alors, je vous fais peut-être bondir, mais c'est comme ça que les rabbins l'ont compris. Pour une raison très simple, mais ça, vous le savez bien, vous aussi, le chapitre 5 de Matthieu, ça s'est passé sur une montagne. La montagne, pourquoi la montagne ? Pourquoi pas sur une colline, sur un fleuve, sur un lac ? Pourquoi précisément sur une montagne ? Mais la montagne, pas seulement symboliquement, c'est visible de tous au loin. Autrement dit, c'est le lieu le plus public qu'on puisse rêver dans l'histoire. Lorsque vous montez sur la montagne, ça veut dire que vous avez un message à faire, à brandir, hein, comme un drapeau, pour tout le monde. Les rabbins insistent là-dessus en disant que ça s'est passé sur une montagne, dans le désert. Et pourquoi le désert, disent-ils ? Mais précisément parce que le désert n'appartient à personne, tout le monde peut y être. Et voyez comment les rabbins insistent sur le fait que cette révélation du Sinaï est dans son origine, si vous voulez, à une intention universelle. Mais malheureusement pour nous, elle ne s'est adressée qu'au peuple d'Israël. Il y a un autre midrash qui dit que Dieu a été chez toutes les nations pour leur demander, et n'ont pas voulu. Hein ? C'est un midrash humoristique comme toujours. Il a été chez Édom, par exemple, il lui a demandé « Est-ce que tu veux recevoir ma Torah ?» Édom lui a demandé « Qu'est-ce qu'il est écrit ?» Il est écrit « Tu ne tueras pas ». Il lui dit « Moi, mon métier, c'est de tuer, je ne peux pas... » Puis il a été, enfin, je ne continue pas l'histoire, chez Moab, etc. Moab, vous connaissez, Moab, c'est bien sûr, il est né d'un inceste. Alors Moab lui a demandé « Qu'est-ce qu'il est écrit ?»« Ben, tu ne commettras pas d'union interdite. » Moab a dit « Je ne peux pas, etc. » Donc, vous voyez, de nouveau, on insiste sur le fait que c'était a priori universel. Et puis finalement, c'est le peuple d'Israël qui a reçu la Torah. C'est pas seulement un hasard. Hein. Si je comprends bien, par exemple, la relation qu'on fait entre le don de la Torah et le mariage dans la tradition juive, cela signifie tout simplement la chose suivante. C'est que, bien sûr, l'amour au départ est universel, mais quand vous aimez quelqu'un, c'est toujours électif. Aimer universellement, c'est pas possible. Aimer tout le monde, c'est n'aimer personne. Dites à votre femme, je t'aime parce que j'aime toutes les femmes. Elle aura raison de vous donner une gifle. C'est pas possible. Ça marche pas. Vous devez lui dire, je t'aime parce que tu es unique. Il n'y a que toi. Pour toi, j'oublie toutes les autres. Sinon, ce n'est pas sérieux. Et si vous faites attention, c'est exactement ce qui est écrit dans le chapitre 19. C'est un verset auquel on ne fait pas attention. Vous serez, au moment où il va annoncer la révélation de Sinaï, Dieu dit à Moïse, vous serez, et au peuple, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte, car à moi est toute la terre. Pourquoi cette fin de verset ? Hein, il dit juste avant ou juste après, je ne me rappelle plus, vous serez pour moi Ségoula, hein, ce qu'on traduit souvent par peuple élu. Or Ségoula, ce n'est pas du tout ça, ça veut dire trésor. Mais vous comprenez de quoi il s'agit. Quand un mari dit à son épouse mon trésor, c'est un langage d'amour. Mais en même temps, alors là c'est intéressant, vous voyez, vous serez une nation sainte, car à moi est toute la terre, autrement dit, à travers vous, je veux aimer tout le monde. Donc c'est en même temps, vous comprenez, électif, mais pas tout à fait. Je vais vous le dire d'une autre manière. Pour que l'amour devienne universel, il faut passer par chacun. Les parents savent très bien ça, hein. C'est la quadrature du siècle pour les parents. Il faut aimer chacun de manière différente. Et en même temps, il faut être juste. Parce que sinon, vous faites du préférentisme et ça ne marche pas. Mais c'est ça les parents. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais réussi une éducation, parce qu'on est pris entre le marteau et l'enclume. Hein. C'est-à-dire entre l'amour et la justice. Il faut en même temps que je sois juste et en même temps que je montre que j'aime chacun personnellement, uniquement. Donc ne faites pas de dépression si vous ne réussissez pas complètement votre éducation. C'est un vrai défi. Mais l'humain, c'est aussi cela. C'est-à-dire comment créer un universel qui fasse place aux particuliers. Comment inventer un amour universel qui fasse place à chacun. Mais c'est ça la question. Alors, comment est-ce qu'on sait que c'est un amour universel? Je rebondis maintenant rapidement. Sur le début du texte, c'est aussi, je suis toujours dans le Midrash, hein. Au début du texte, il est dit, je vous cite le texte de mémoire, Dieu parla ses paroles à Moïse en disant. Ce qui semble un verset complètement anodin dans la Bible, parce qu'on le répète très souvent. Commentaire de Rashi, c'est un homme de Troyes au XIe siècle en France. Commentaire de Rashi, qui faisait du vin. Commentaire de Rashi dit la chose suivante, Dieu a tout dit en un mot, je dirais en une lettre. Ce que personne n'a pu comprendre. Et puis comme personne n'avait compris, il a dû se répéter, cette fois-ci, en séparant les lettres, ce que nous avons écrit, si vous voulez, dans le texte. Alors c'est fondamental ça, parce que ça veut dire que ce que nous avons dans le texte, c'est une traduction de quelque chose qui nous dépasse complètement. Autrement dit, ce que Dieu a vraiment voulu dire, vous ne le saurez jamais. C'est terrifiant. Mais il faut le faire, il faut le dire avec humour. Mais c'est compréhensible dans le sens, mais évidemment que ça nous dépasse. Vous croyez vraiment que vous avez compris Dieu? Ah ben, vous êtes un sacré coco. Vous pensez que votre cerveau comprend Dieu? Fantastique. C'est génial. Hein? Ce matin, j'ai parlé à une mouche. Que croyez-vous qu'elle a compris? Mais quand Dieu parle à l'homme, c'est encore mieux que ça. Que croyez-vous que l'homme a compris? Mais justement, c'est pas pour rien qu'on a de gros problèmes, parce qu'on a cru comprendre quelque chose, alors que ce qu'il a voulu nous dire dépasse infiniment ce qu'on a pu comprendre. Et maintenant, nous n'avons que la traduction de cela. Mais cette traduction, c'est celle de Moïse. Et puis nous travaillons avec la traduction de Moïse, mais c'est très important bien sûr, parce que c'est ce que nous avons. Autrement dit, c'est cette traduction-là qui nous permet de rebondir vers ce qui nous dépasse complètement, c'est-à-dire la transcendance. Et vous entendez ici que, de nouveau, lorsque Dieu en appelle à l'homme, alors ça c'est difficile à entendre, il n'y a pas de contenu. Si, il y a un signe, mais allez comprendre le signe. Maintenant on va commencer à interpréter précisément. Mais quand vous interprétez, vous ne faites qu'interpréter. C'est-à-dire, vous répondez à Dieu, ça c'est clair. Vous avez conscience qu'il y a un appel, qu'on vous a fait signe. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Ben ça, maintenant, ça c'est l'histoire humaine. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? C'est-à-dire que maintenant, désormais, je dois interpréter cela de telle manière que je puisse faire vivre ma société et les sociétés alentour. De la meilleure manière possible, c'est-à-dire en répondant à cet appel. Donc c'est pas du tout gagné d'avance. Nous sommes au cœur de la question humaine, si vous voulez, je veux dire de cette manière-là. Et la question humaine n'est pas une question absurde, hein, comme si je me posais la question, est-ce qu'il y a un sens? Il y a un sens possible parce qu'il y a une question. La révélation nous révèle ça. Dieu nous a fait un clin d'œil, mais non, qu'est-ce qu'il a voulu nous dire? Mais le clin d'œil, il est là. Et maintenant, débrouillez-vous pour essayer de le déchiffrer, c'est-à-dire, comprenez, il s'est révélé en se cachant. Il nous a fait signe pour pouvoir se retirer et en se retirant, nous induire, nous appeler à notre responsabilité parce que c'est cela qu'il veut. Sinon, il suffirait simplement qu'il y ait photo. Dieu s'est révélé, photo, et maintenant on se prosterne. Il n'y a plus qu'une seule chose à faire. J'ai l'évidence totale de ce que Dieu veut, il suffit de l'accomplir. Le seul problème, c'est simplement de se soumettre. Alors comme l'homme est réticent, etc., c'est vraiment très difficile. Mais il suffit d'être sage comme une image, hein, comme j'ai l'image de Dieu. Maintenant, tu vas être sage comme l'image. Mais c'est une catastrophe. Ça veut dire que nous ne sommes plus humains. Nous sommes vécus par un autre en nous. Oui, donc l'importance ici de ce que j'ai appelé la notion de Shabbat, que je retrouve ici dans la notion de révélation, lorsque Dieu se révèle, il se retire. Et donc, il nous laisse à notre responsabilité, il me reste 5 minutes, il nous laisse à notre responsabilité pour que, précisément, nous inventions par notre propre responsabilité l'unicité qui est la nôtre et qui l'attend. Il me reste 5 minutes pour faire un texte très important. Parce que les rabbins, à partir de cette universalité de la révélation du Sinaï, vont tout simplement, pas inventer, mais vont nous dire qu'il existe, au-delà de la Torah qu'Israël a reçue, qu'il existe une autre Torah. En fait, une alliance, effectivement, vous trouvez dans l'alliance, il y a une autre alliance qui a précédé l'alliance avec Israël, qu'on appelle l'alliance de Noé. Et l'alliance de Noé, bon, elle existe dans la Bible, hein. Nous disent les rabbins, en fait, c'est encore plus complet, vous trouvez ça au traité le Talmud de Babylone, 56a et B, hein, pour ceux que ça intéresse. Les rabbins vont nous dire, en fait, avec Noé, il a ajouté une 7e loi parce qu'il y en avait déjà 6 avec le premier homme. Et donc finalement, il y a 7 lois, 7 commandements de Noé que Noé doit respecter. Je vous les cite, hein, rapidement. C'est obligation par l'homme de mettre des tribunaux en place, la justice dans la société, qui est le cœur de la société, ne pas faire d'idolâtrie, ne pas maudire Dieu, ne pas assassiner, ne pas faire d'union interdite, l'inceste si vous voulez, ne pas voler, et la 7e, ne pas manger un membre d'un animal vivant. Je n'ai pas le temps de vous les expliquer. Si vous voulez, c'est-à-dire, chez les rabbins, on trouve donc une conception de ce qu'on pourrait dire une morale universelle. Ce n'est pas la loi universelle, hein. Ce serait plutôt dans tout ce qu'on a discuté auparavant, une espèce de droit universel, ou de droit naturel, si vous voulez. C'est-à-dire la base de toute société à partir duquel une société peut être viable. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les rabbins raccrochent cette loi à un verset qui n'est pas anodin, le verset du premier homme, dans le chapitre 2 de la Genèse, vous voyez que je reviens au départ, où on nous dit, la transcendance Dieu dit à l'homme, pardon, la transcendance Dieu commanda à l'homme en disant. Alors, tziva, c'est le terme mitzvah. Commander, c'est une mauvaise traduction. Je préfère, moi, la notion d'exigence. L'exigence, parce que c'est ce qui vous fait sortir de vous. Et la fonction ici de la révélation, c'est précisément de nous mettre en relation hors de nous-mêmes avec d'autres et avec l'autre. Donc, première exigence du divin par rapport à l'homme. De tout arbre du jardin, manger, tu mangeras. Les rabbins travaillent chaque mot de ce texte pour nous dire, voilà, dans ce mot-là, il y a la première loi, la deuxième loi, la 7e loi. Et bien sûr, ce n'est pas anodin comme choix. Il s'agit de la première exigence par rapport à l'homme, mais l'homme universel, puisque c'est Adam et le Père, il est particulier et universel, hein, Adam. Les deux. Puisqu'il est le père de tous, comme Noé d'ailleurs, c'est la même chose. Mais Noé, c'est Noé. Il a reçu la loi lui aussi, mais comme personne, pour tout le monde. Vous voyez qu'il y a toujours ce paradoxe inhérent au don de ce qu'on appelle la révélation. Et pourquoi ce texte? Précisément parce que c'est la première exigence du divin par rapport à l'homme, qui est double. Manger, tu mangeras de tout arbre du jardin. Ça, c'est la première. C'est-à-dire, le monde est là pour que vous le croquiez, mangez-le à pleines dents. Je vais dire d'une autre manière, mais c'est les rabbins qui nous disent ça. On nous demandera, quand on arrivera au jugement dernier, tous les plaisirs qu'on a pu avoir et qui étaient licites et qu'on n'a pas pris. On aura des comptes à rendre. Il y avait un rabbin qui, chaque fois qu'il y avait de nouveaux fruits sur le marché, achetait les fruits parce qu'il faut manger tous les arbres du jardin. D'accord? Si vous voulez, je vous donne un autre exemple. J'adore Bach, comme on dit. D'accord? Mais je dois ouvrir mon oreille à toutes les musiques. Il faut goûter de tout. D'accord? Puis maintenant, vous aimez ou vous n'aimez pas, ça c'est un autre problème. Mais goûter de tout. Ouvrez votre expérience du monde, le monde est fait pour vous. Ouvrez votre expérience le plus possible. Dieu ne l'a pas créé pour qu'il soit vide et inhabité. C'est pour vous. C'est un cadeau. Mais, bien sûr, une fois que j'ai compris cela, c'est-à-dire que le monde est le lieu de mon propre moi, de ma propre jouissance, une fois que j'ai compris cela, il y a bien sûr la deuxième partie. Mais de l'arbre du connaître bien et mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Oh là là. Alors qu'est-ce que c'est que connaître bien et mal ? Il me reste une minute. Mais je vais aller très vite, c'est pas grave. Comme je l'ai dit, je lance des pistes de réflexion, et puis on en parlera après. On ne sait pas ce que c'est le connaître. C'est la première fois que le mot apparaît dans la Bible. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'on fait ? Méthodologiquement, on va chercher la prochaine fois que le mot apparaît. Et la prochaine fois, c'est très clair, c'est au chapitre 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn. Donc c'est la connaissance biblique. C'est-à-dire la relation intime entre un homme et sa femme. Je vais le dire de manière plus générale, ce qui nous est interdit de manger, vous pouvez manger le monde. Mais la relation à l'autre, ça c'est interdit. Vous pouvez avoir relation avec l'autre, mais vous ne mangez pas cette relation. Hein, ce n'est pas le connaître qui est interdit, hein, c'est manger le connaître. Heureusement pour les universités. Vous pouvez connaître, bien sûr d'abord au sens humain du terme, ce qui est important. La connaissance est d'abord humaine. Elle devient ensuite intellectuelle et théorique, etc. Mais elle est d'abord humaine. Mais non, donc connaissez, mais ne mangez pas de la connaissance. N'utilisez pas la relation à l'autre pour manger l'autre, vous appropriez l'autre. Et c'est là qu'on sort, si vous voulez, de la simple création et qu'on rentre dans la révélation, c'est-à-dire dans une relation qui ne m'appartient plus. Parce que connaître bien et mal, le bien et le mal, le bien et le mal, c'est pas ça qui est écrit en hébreu. La première fois que c'est utilisé comme substantif, devinez qui l'a utilisé. Mais le serpent, bien sûr. C'est le serpent qui fait du bien et du mal quelque chose. Hein ? Ça, c'est le mal, ça, c'est le bien. Le texte ne dit pas cela. C'est connaître bien et mal. Je dirais en français, pour aller vite, connaître bon an, mal an. Connaître bonnement, malement. Ce sont des adverbes, si vous voulez. C'est-à-dire des adjectifs du verbe. Autrement dit, dans la connaissance, ça peut aller vers le bien, vers le mal, vous ne le saurez jamais d'avance. Pourquoi ? Parce qu'avec les meilleures intentions du monde, je peux faire le mal. Et avec les pires intentions du monde, je peux aussi faire le bien. C'est plus rare, hein, mais ça arrive aussi. Je suis en train de critiquer la morale kantienne, hein, qui est une morale de l'intention. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut pas la prendre en considération, elle est fondamentale. Évidemment que quand je vais vers l'autre, je vais avec une bonne intention, c'est quand même la moindre des choses. D'accord ? Mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas parce que je vais vers l'autre avec une bonne intention que ça va réussir. Parce que l'autre, il est autre précisément. Je ne peux pas l'intégrer à l'avance dans ma raison, dans ma pensée, dans ma compréhension, parce qu'il est quelqu'un d'autre. Donc le bien et le mal ne m'appartiendront jamais. Je ne peux pas avoir de catégorie fixe, définitive, pour me dire ce que seront le bien et le mal. Ça dépend de la relation. Ça dépend donc d'une extériorité que je ne peux pas intégrer à moi. Mais c'est exactement ça la relation avec la transcendance. C'est ce qu'on appelle l'alliance. C'est-à-dire je rentre dans une aventure dont les attendus m'échappent. Et je termine rapidement la conclusion, j'avais d'autres choses à dire. Hein. Mais ce n'est pas pour rien aussi que au centre du sanctuaire d'Israël, dans le désert, et puis dans le temple aussi, il y avait quand même une représentation. Il y avait une représentation, il y avait l'arche d'alliance avec les deux chérubins qui se faisaient face. Et nous dit-on dans le texte, après le Sinaï, qui est ponctuel, exceptionnel, lorsque Dieu parlait à Moïse, il ne voulait parler que d'entre les deux chérubins qui se faisaient face. Le texte est plus précis, au chapitre 25 de l'Exode, vous verrez vous-même. Tout ce que Dieu a commandé, a exigé aux enfants d'Israël, il l'a dit d'entre les deux chérubins. Cela veut dire que je ne peux pas comprendre l'exigence divine, sinon au cœur d'un face-à-face dans lequel elle fait sens. Et c'est au cœur de ce face-à-face, c'est-à-dire de cette relation de connaissance où je m'interdis de manger tout en connaissant, je m'interdis de manger de la connaissance, c'est au cœur de cette relation que seul peut advenir le commandement divin, l'exigence divine, qui va me faire distinguer le bien du mal. C'est-à-dire que je dois être prêt dans une relation, je ne sais jamais où elle va m'amener. Je rentre dans une aventure parce qu'elle va peut-être exiger de moi ce que je n'avais jamais et d'aucune manière supputé à l'avance. C'est ce qu'on appelle l'aventure de l'Alliance. À ce niveau-là, nous, juifs et chrétiens, nous sommes dans la même enseigne. Nous sommes dans une aventure qui nous dépasse. Mais nous savons au moins que dans cette aventure qui nous dépasse, celui qui nous dépasse nous attend. C'est-à-dire exige de nous ce travail que nous essayons de faire ensemble pour témoigner devant l'humanité de cet humain encore à faire et qui ne pourra se faire que par l'effort commun de chacun et de tous, et c'est les deux qui sont importants, pour essayer de faire advenir cette humanité dont tout le monde rêve, mais qui tarde à venir précisément parce qu'on pense qu'elle est déjà là. Et je suis désolé, mais je termine sur une note un peu négative. Quand on ouvre le journal, on n'a pas cette impression-là. Et c'est là qu'on sait qu'il reste à se retrousser les manches pour essayer de faire émerger véritablement l'humain, parce que l'humain, finalement, ce que je suis en train de vous dire, n'est qu'un perpétuel état d'émergence à lui-même face à l'autre, et donc face à une relation que jamais, au grand jamais, il ne maîtrisera. Donc je suis désolé, il n'y a pas de réponse au niveau de la loi naturelle, mais ce qui me semble fondamental, c'est que finalement, dans ce que je viens de dire, la loi naturelle est beaucoup plus ce que nous visons. C'est-à-dire, nous espérons qu'un jour, l'appel de la révélation retentira suffisamment bien dans le monde pour devenir naturel. Mais ça, on est très loin du compte. Je vous remercie.